Couchez, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux? Je me dis, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos chroniques terriennes. Chronique terrienne, émission animée et réalisée par Eric Kolz, tous les lundis de 21h à 22h et le samedi en rediffusion de 20h à 21h sur le 107.4 de Radio Pays d'Aurillac. Retrouvez votre émission sur YouTube, sur la chaîne Chronique terrienne. Au sommaire de notre émission, une fois n'est pas coutume, c'est avec un auteur, compositeur, interprète que nous débuterons. J'ai interviewé par téléphone Mélane, qui se produira le 10 décembre prochain au Sismographe. Nous poursuivrons avec Christian Montin, président de l'AMF 15, Association des maires de France du Cantal, que j'ai eu le plaisir d'enregistrer au téléphone. Enfin, dans le cadre de notre rubrique Aurillac la nuit, c'est Anthony du Gotham que nous entendrons. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69.
On fera genre qu'on s'en fout, qu'on ressent rien, que ça nous touche pas. Qu'on est pas seul au fond du gouffre, pourtant tu sais que c'est la douche pas. On est 4, on était 12, 12, cool, ouais, mais 12 froisses. Garde le smile sous la douche froide. On fera genre qu'on s'en branle, mais tu le bades et on sait tous. On a tous pensé à se pendre, on a tous pensé à tous. Marcher les yeux dans le vide, essayer de contourner les flammes. Tu ferais mieux tourner des films plutôt que faire tourner les femmes. Marre de tourner les pages, moi je veux graver mon livre. Bien sûr qu'il faut que je brasse, gros, si je veux garder mon lit. On a merde dans ses temps sales, comme un rat dans les égouts. Je dois pas le penser autant que ça pour dire autant que je m'en bats les couilles. Tu feras genre, mais dans le fond elle t'a touché. Tu penses même quand tu dors, là c'est pas bon, gros, t'es bouche bée, y'a pas de plan B. C'est la tempête, t'es dégoûté. T'es qu'une merde quand t'es bourré. Si t'étais net, t'arriverais pas à t'écouter.
C'est chaud.
Tu feras genre, mais dans le fond elle t'a touché. Tu penses même quand tu dors, là c'est pas bon, gros, t'es bouche bée, y'a pas de plan B. C'est la tempête, t'es dégoûté. T'es qu'une merde quand t'es bourré. Si t'étais net, t'arriverais pas à t'écouter.
On fera genre
que c'est pas grave, qu'on s'en tape, qu'on s'en balance. J'ai vu marcher seul, baisser la face, les bras ballants. C'était pas beau à voir, c'était pas beau à vivre. Mais t'es doute au lavoir et cavale, c'est beau la vie. On dira nique sa mère, qu'on y pensera plus tard. Le temps de péter la bulle d'air, on dansera comme la plupart. On va se créer des masques, penser qu'on va finir saine. Persuadé que c'est une farce, nos vies des soirées vénitiennes. Elles prennent mal quand t'es sincère, t'as le syndrome du mal aimé. Les bâtards, c'est ce qu'elles préfèrent, les mecs qui les font galérer. Je vais pas me voiler la face et m'en rendre compte la nuit de nos noces. Elle trouvera bien ma place, hein, qui aime bien jeter le nonos. On fera genre qu'on s'en fout, qu'on s'en balaye avec le doute ravi. J'taffe la zig, j'vais pas lever des palais toute ma vie. Si tu cherches à me baiser, t'es égaré, t'en dis quoi? Si tu t'en vas le cœur léger, t'as qu'à regarder dans le miroir. On fera genre qu'on s'en fout, qu'on s'en balaye avec le doute ravi. J'taffe la zig, j'vais pas lever des palais toute ma vie. Si tu cherches à me baiser, t'es égaré, t'en dis quoi? Si tu t'en vas le cœur léger, t'as qu'à regarder dans le miroir.
T'as qu'à regarder dans le miroir.
On fera genre que c'est la fête, qu'on sourit, qu'on est content. Calme-toi pour tout de suite, hein, nique ta mère dans pas longtemps. Immature et vocal, moi, vois-nous comme tu veux. Toi, la profondeur des flammes, t'y piges rien, t'y vois que tu veux. On fera genre qu'on est bête, c'est comme ça qu'ils veulent nous voir. Vivement que je me casse aux plaies, vivement que j'arrête de boire. Vivement que les choses se posent, vivement que ça se décrispe. En bas dans tes cris, bien, je préfère arrêter que d'être triste. On fera genre ça déchire, on est sur scène, on fout le bleu. Putain, ça vient de mes tripes, je m'en branle de tes pouces bleus. Tout est mélangé, dit, c'est comment on fait le tri. C'est pas normal de déranger au point d'en écrire incompris. On fera genre y'a pas de soucis, ouais, c'est cool, y'a tout qui passe. On nique ma race quand je m'adoucis, je suis pas vous le pas de multipass. À l'heure où tout s'achète, y'a que des amours outrageants. Nique, j'ai ma quête, pour le reste, on fera genre, y'a pas de soucis, ouais, c'est cool, y'a tout qui passe. On nique ma race quand je m'adoucis, je suis pas vous le pas de multipass. À l'heure où tout s'achète, y'a que des amours outrageants. Nique, j'ai ma quête, pour le reste,
on fera genre.
On fera genre, on fera genre, on fera genre, on fera
sentence. On fera genre, pas la pourcentage.
Mélane, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Bonjour. Alors moi, c'est Mélane Omerta, j'ai 30 ans. Voilà, je fais de la musique, du rap. Et du cinéma.
Et voilà. Du cinéma, oui, j'ai vu ça récemment. Alors, une expérience par le 7e art, c'était sympa ou difficile?
Non, c'est quelque chose qui était un peu nouveau pour moi, que j'ai découvert sur le tas. Et en plus, dans des projets où j'étais assez impliqué, c'est-à-dire j'avais pas forcément j'avais plutôt des gros rôles, quoi. Donc voilà, mais non, j'ai adoré l'exercice.
Alors le 10 décembre prochain, on te retrouve sur la scène du Sismographe à Aurillac. Tu présentes quelque chose de nouveau ou ce sont essentiellement des anciens titres?
On a un album en préparation, mais bon, vu qu'on ne l'a pas mis encore en avant, etc., je ne vais pas forcément jouer trop de nouvelles choses. Par contre, oui, en fait, j'ai beaucoup d'albums, ça fait longtemps que je fais du rap. Je pense pas avoir déjà joué à Aurillac.
Oui.
Donc je pense aussi que c'est pas mal dans ce genre d'occasion de faire des concerts qui retracent un peu la carrière, quoi.
Je peux déjà t'informer que tu es connu sur Aurillac, puisque je fais à l'heure actuelle une série de reportages sur Aurillac la nuit, et j'ai croisé des jeunes qui parlaient de toi et du concert à venir.
Ah ben, fantastique.
Ah oui, c'est plutôt cool, quoi.
Ouais, c'est cool.
Ouais. Et j'espère que de toute façon, il y aura du monde, mais il n'y a pas de raison, les Aurillacois aiment bien découvrir de nouvelles têtes. Comment décrirais-tu ta musique?
Je la décrirais comme quand même éclectique. Donc, j'aime bien varier les styles, j'aime bien ne pas me cantonner à une façon de faire, à un seul rythme, à une seule ambiance, etc. Donc je peux partir autant avec des instrus qui sont plus latines, plus guitare. Je peux partir aussi sur du piano, ça peut être plus mélancolique, ça peut être plus joyeux. Donc je la dirais éclectique, mais toujours recentrée sur le fait d'essayer de soigner l'écriture et de parler de la vie. Donc de parler de tous les schémas possibles qu'on puisse rencontrer, en fait.
Tu as commencé à écrire très jeune, 14 ans, je crois, c'est ça?
Ouais, les premiers textes que j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans.
Donc tu es aussi un instrumentiste, si j'ai cru comprendre. Tu as appris à jouer de la musique.
Alors ouais, depuis petit, moi, mon père, il avait un petit groupe avec des potes. Et moi, depuis que je suis petit, depuis que j'ai 4-5 ans, je faisais de la batterie. J'en ai fait pendant pas mal de temps. Après, j'ai eu des groupes avec mon frère. On faisait un peu du punk garage.
Oui.
Quand j'étais plus jeune, quoi. Quand j'étais ado, on va dire. Et puis ensuite, j'ai appris un peu la guitare. Je connais pas le solfège, mais je me débrouille à l'oreille, en fait.
Donc un autodidacte.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que, habituellement, ton public est intergénérationnel ou est-ce qu'il y a essentiellement que des jeunes?
Alors, non, moi, j'ai un public qui a plus. Qui est souvent plus âgé que moi. Bon, j'ai pris quelques années, donc on commence à avoir le même âge.
Et 30 ans, mais c'est un cap. Aussi. Vous venez de l'entendre, il s'agit bien d'un bip de fin de communication. Notre interview fut émaillée de petits incidents techniques et la qualité du son en a souffert quelque peu. Après un nouveau titre, nous retrouverons Mélane.
On fait partie de ceux qui se rassemblent pas. Aucun trac sans blase, ajoute un accent grave. Par si ça s'engasse, la basse s'embrase. La jambe pâle, reste discret. La loyauté ne se marchande pas. Je la sens glace et on y passe en le bras. Et s'il y a trop de gens blasés, oui on se lasse en boire. Rageant du passé, je vois des gars sans foi qui jalousent les traces et qui parlent sans voix. J'ai vu des phrases et qui se décalent, des rires, des rites, des filles qui partent. Puis des jeunes gaz et qui se débarquent, esquivent devant des flics qui parlent. Là où c'est médical, ici le chagrin est délicat. J'ai la rage contre personne puisque chacun est critiquable. Y'a des clochards qui te péperont, qui se font démonter pour 10 balles. Des cons, des bons, des cons, des sombres. Et j'ai pas les fonds pour t'y parler. Esquinter des wagons, des gardes, des gars de mes bombes avec des graphes. Écarter les matons, mes crates, toucher de la conce avec mes gars. Chez nous les braves gens savent, mettre les bails dans le sable. Aucun marchand ne savent, ouais les vaillants le savent. Faut pas s'en vanter, les enfants bavent. Le rap tue la jeunesse car les temps sont graves. Combien en font un fond de commerce en se pensant brave. À cause de toi, sache que des gosses meurent en se tranchant le bras. Les tours s'encrassent et les gens s'en tapent. Les pas s'en passent, ça ne les enchante pas. Manger la gueule pour le remploi, mais pas le cœur qui va avec. Ici on fume, on tisson bois, les jeunes se consument pour faire la fête. Les journalistes leur mettent des doigts et je leur souhaite une paire qui se les pète. La politique la coupe des boîtes pendant qu'ils interdisent les pètes. Ça fait longtemps qu'ils nous la mettent, c'est qu'on dépensait par les traites. Les médias flamboyent quand c'est dead, l'argent dépensé par les dettes. Ils bougent les vents marées et mères, ils ont menti, ok c'est net. Car on on est gouverné en clair pour du factice par des fainés. Ceux qui se rassemblent pas, aucun trac sans place. Ajoute un accent grave, par si ça s'engasse. La basse s'embrasse, l'argent de pâle, reste discret, la loyauté ne se marchande pas. Je la sens glace et on y passe sans le bras. Et s'il y a trop de gens blasés, oui, on se la sent boire. Rageant du passé, je vois des gars sans foi qui jalousent les traces et qui parlent sans voix. Dis-leur qu'on patine dans la smoule, qu'on sent pas les coups des urnes, qu'on galère à faire des sous. Mes frères, les trois quarts sont déçus. Les gens marchent et baissent la tête, mais tu sais, la vie m'enseigne. Ce mode de vie nous reflète qu'ici on oublie l'essentiel. L'état n'est pas facile, c'est pas la cible, c'est le carnage. En cage ainsi, c'est pas de la zig, c'est du partage. Rap pour les gens qu'on pas de cash, la peine est palpable. Moi je suis palpable, c'est pour les cœurs sans barbales. Malaise palpable et climat de peur, c'est pour voir les barbares, les tarbats. Nous des revendicateurs, il faudrait qu'on s'assemble, qu'on se pète et qu'on se batte. L'état roux se pète, faut que tout pète et qu'on se barre. Ouais, le passe en passe. Ouais, quinter des wagons, des gardes, dégâts de mes bombes avec des graphes. Écarter les matons, mes gras, toucher de la conce avec mes gars. Mais là, non, merde. Ouais, chante et j't'emmerde. Esquinter des wagons, des gardes, dégâts de mes bombes avec des graphes. Écarter les matons, mes gras, toucher de la conce avec mes gars.
On fait partie de ceux qui s'assemblent pas. Aucun trac sans blase. Ajoute un accent grave, par si ça s'engasse. La basse s'embrasse, l'argent de pâle, reste discret. La loyauté ne se marchande pas. La sans glace et on y passe sans le bras. Et s'il y a trop de gens blasés, oui, on se lasse sans boire. Rageant du passé, je vois des gars sans foi qui jalousent les traces et qui parlent sans voix. Chez nous, les braves gens savent mettre les pailles dans le sac. Aucun marchand ne savent, ouais, les vaillants le savent. Faut pas s'en vanter, les enfants bavent. Le rap tue la jeunesse car les temps sont graves. Combien en font un fond de commerce en se pensant brave. À cause de toi, sache que des gosses meurent en se tranchant le bras. Les tours s'encrassent et les gens s'en tapent. Les pas s'en passent, ça ne les enchante pas.
Pierre Antoine Coco, Woody Von Von, Yayo Max, TF Yolo. Vous posez en paix. On danse avant de vous rejoindre. 12-31, Paname 7-8. Edeo Merta. Edeo Merta.
Radio Pays d'Aurillac.
Donc on disait que, oui, donc tu avais commencé à écrire jeune et puis que tu avais évolué au fur et à mesure. Différents types de musique, finalement, tu as touché à pas mal de choses en musique.
Ouais, oui, oui, on peut dire ça.
Ouais.
On peut dire ça, et puis, c'est, et puis tout m'intéresse en fait, donc,
oui.
Donc j'aime découvrir des nouvelles choses. Et,
Tout à fait. Alors on parlait également de ton public, tu disais que souvent ils étaient plus vieux que toi ou...
Bah, c'est-à-dire quand j'avais 20-21 ans, j'ai sorti mon premier album concret qui s'appelait La Vingtaine. Et c'est vrai que dans les statistiques un peu, quand on voit l'âge des gens, ils étaient plus dans les 25-30 que dans les 16-20, quoi.
Mm-hmm.
Clairement. Et aujourd'hui, c'est toujours ça. Ça veut dire que la brochette, la fourchette, parce que la fourchette, c'est vraiment plus 25-35 qu'un public adolescent. Ensuite, j'ai quand même des gens plus jeunes qui m'écoutent, mais peut-être que ça venait de là, qu'à 20 ans, j'avais... en fait, c'est, je pense que dans l'écriture et dans les termes abordés, il y avait une maturité. J'entends, je dis pas que mon écriture était mature ou quoi que ce soit, mais dans les thèmes abordés, finalement, c'était des choses que pas forcément tous les adolescents
étaient concernés par ça.
Ouais, voilà.
Ouais.
Donc du coup, on est sur une brochette, voilà, en fait, plus autour de la trentaine. Quoi.
Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi le travail d'écriture ? C'est quelque chose de difficile ? Ça sort facilement ? Il faut que tu t'isoles ? Comment ça se passe ?
Ça dépend. C'est vraiment. En fait, moi, l'écriture, c'est vraiment une question de feeling. Donc, parfois, je peux écrire quand il y a beaucoup de monde et que je suis entouré de beaucoup de gens et tout, et que j'ai une idée dans la tête, bah, je peux quand même écrire. D'autres fois, j'ai pas du tout envie. Je peux écrire en studio avec des gens, on fait tout sur le moment. D'autres fois, ça me bloque. C'est vraiment une question de feeling, de comment je me sens, de comment l'instru sur laquelle j'écris et le thème me parle et l'ambiance dans laquelle je suis. Donc, surtout, ce que je fais, c'est que je me force pas à écrire. En général, j'avance avec ma musique. Quand je suis inspiré, j'écris, ça avance.
Essentiellement du spontané, donc.
Ouais, essentiellement du spontané. Ouais, très essentiellement du spontané. Mmh.
Alors, tu nous fais ça à l'ancienne, un stylo, un papier, ou voilà, c'est sur le smartphone
stylo, papier, toujours. Toujours. J'ai mes petites habitudes, j'ai mes notes que je fais, les petits signes que je fais, parce que je respire là, parce que j'accélère là, parce que je me pose ici, je commence après le temps. Il y a plein de petits trucs que je note quand j'écris naturellement depuis des années. Franchement, moi, papier et stylo, j'y trouve vraiment un charme à poser sur papier vraiment les mots, quoi.
Avec cette interview, nous allons bien sûr diffuser au minimum l'un de tes titres. Quel est celui pour toi qu'il faudrait que l'on diffuse ?
Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème là-dedans, c'est que je suis assez éclectique. Donc, on peut trouver une musique avec beaucoup de fond qui peut faire réfléchir pas mal de personnes. On peut aussi en trouver une qui est beaucoup plus gaie et qui va... et qui va plus enjailler les gens et pour avec quand même de l'écriture dedans. Donc en fait, c'est plus au feeling. Je dirais Incompris, c'est le morceau le plus fédérateur, je pense. Ouais.
Et c'est celui que tu aimes le plus ?
J'ai pas vraiment, franchement, moi j'ai pas franchement de...
T'as pas une chanson fétiche sur scène ?
Bah si, je finis par souvent mes concerts par Incompris et Passe-en-Passe, qui sont deux titres, comme je veux dire, fédérateurs de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fait jusque-là. Mais il y a pas vraiment de titre que vous savez. En plus, ça fait longtemps que je les entends, moi. Hein. Ça fait longtemps que je les écoute pas. Par contre, j'adore les jouer sur scène, mais je les écoute pas.
Tu as fait combien de scènes ? Est-ce que tu le sais ?
Non, je sais pas. Franchement, on a fait. Je fais des scènes depuis que j'ai, je pense, 18 ans. Et j'en ai 30 aujourd'hui. Il y a des années où on a fait des dizaines de concerts des fois dans l'année. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais on a bien bougé. On a fait beaucoup de concerts.
Tu as une grosse équipe sur scène ?
Petite équipe. On est trois. Mm-hmm. Avec Capdem, qui fait partie d'Omerta Music aussi, qui est sur scène avec moi, qui chante avec moi. Et DJ Mayday, mais qui écoute, nous accompagne.
J'aurai le plaisir de te rencontrer ce 10 décembre prochain, puisque je serai là.
Avec plaisir. Bah, hâte de... On s'y retrouve tous.
Oui, à très bientôt. Je te remercie
à
beaucoup.
À très bientôt. Ouais, bonne journée.
Au revoir.
Ciao.
Radio Pays d'Aurillac.
Nous retrouverons Mélane tout au long de l'émission. C'est un peu notre fil rouge aujourd'hui. Dans l'immédiat, je vous propose d'écouter Christian Montin, président de l'Association des maires de France du Cantal et maire de Marcolès. Nous avons évoqué ensemble le rôle des élus de proximité ainsi que le 104e congrès des maires de France. Que signifie être président de l'Association des maires du Cantal et qu'est-ce qu'une association de maires ?
Ah, c'est quelque chose de beaucoup plus important, je pense, qu'on ne le croit généralement. L'Association des maires, c'est une association qui se décline au niveau national et au niveau départemental. Donc, on a une Association nationale des maires, l'Association nationale des maires de France,
dont AMF, c'était le 104e congrès.
Dont c'était le 104e congrès cette année, effectivement. Et donc, vous voyez qu'il y a un petit moment que les maires de France se sont constitués en association, simplement au départ pour défendre leurs intérêts. Au début, je crois que la création de l'Association des maires de France était motivée par la défense d'un impôt, l'octroi à l'époque, qui s'appelait comme ça. C'était une espèce d'impôt sur le commerce, je crois, ou les échanges, enfin, je ne sais pas trop. Et il y avait une menace sur cette ressource qui, à l'époque, était rare, les ressources des communes. Elles le sont toujours, mais à l'époque, c'était encore différent. Et donc, du coup, les maires s'étaient constitués une association pour tout simplement défendre les intérêts des communes par rapport au gouvernement, par rapport aux législateurs, pour faire entendre la voix des communes.
D'ailleurs, D'ailleurs, cette association n'est plus seulement l'association des maires, mais aussi des présidents de communautés de communes, c'est bien ça ?
Absolument. Et du coup, elle évolue avec ses époques, avec le temps. Elle a eu pas mal d'évolutions. Elle a évidemment fait évoluer ses buts, ses statuts au cours des années. Elle a effectivement maintenant intégré les présidents de communautés de communes en son sein. Et l'idée reste toujours la même, c'est de faire entendre la voix des territoires, la voix des communes et des communautés de communes, défendre leurs intérêts par rapport aux évolutions, par rapport à la loi, par rapport à un certain nombre de pratiques, par rapport à des politiques nationales, européennes, et représenter donc les maires alors au niveau national et au niveau départemental.
Ça le permet aux maires aussi peut-être de rencontrer plus facilement certains élus ?
Alors, bien sûr, c'est aussi un espace de rencontre, de connaissance, de convivialité. C'est aussi un endroit où les maires viennent chercher de l'information, du conseil, de la solidarité en quelque sorte, si vous voulez, et des réponses à des questions très pratiques qui peuvent se poser à eux, les jeunes maires en particulier, mais pas que les jeunes évidemment, les plus anciens aussi.
J'ai même entendu parler bureau, de formation.
Bien sûr, c'est un de nos objectifs essentiels, c'est la formation pour apporter justement des compétences, des savoir-faire, des connaissances en matière de gestion communale sur une multitude de sujets.
Oui, parce que finalement, les maires sont quand même, font partie de la communauté civile et ne sont pas nécessairement formés à la gestion d'une commune. La gestion d'une commune, c'est quand même, ça demande une certaine pratique et un certain art.
Mais vous avez mille fois raison. Être maire d'une commune aujourd'hui, c'est, alors ça répond à rien, hein, si vous voulez. Il y a pas de, il y a pas, on n'a pas un DESS gestion d'une mairie, ça n'existe pas. C'est une fonction au service de sa collectivité, de ses concitoyens, qui nécessite une multitude de connaissances et une multitude aussi de savoir. Être de comportement par rapport à tout un tas de choses qu'on a à régler. Il faut qu'on soit à l'écoute de nos concitoyens en permanence, à régler des problèmes au quotidien, mais il faut aussi qu'on soit en capacité de, je ne sais pas, de défendre des dossiers auprès de d'autres administrations, qu'on puisse aller rencontrer le préfet, le député, le sénateur, le secrétaire général de la préfecture et qui sais-je encore, ou le commandant de gendarmerie, en fonction des choses qu'on
oui,
a réglées.
Oui, c'est-à-dire que les missions sont multiples. Le maire est à la fois un magistrat, il est à la fois un économiste, il faut qu'il soit aussi un VRP de sa ville. Finalement, les casquettes sont nombreuses.
Absolument. Il est aussi officier de police judiciaire sur le territoire de sa commune. Donc, vous voyez, il est en charge de la sécurité sur son territoire. Il a effectivement une multitude de fonctions qui font que s'il veut les remplir, évidemment, avec le maximum de conscience et d'efficacité, ben, il a besoin de formation, il a besoin de soutien, il a besoin de conseils, il a besoin d'aide au quotidien. Et tout ça, c'est le rôle de l'Association des maires du Cantal, relayée par l'Association des maires de France, qui essaie d'apporter, d'être à l'écoute des maires et au quotidien d'apporter des réponses. Nous, on a un bureau à Aurillac, 46-20-15. Marlène répond aux demandes en permanence des maires. Elle sait beaucoup de choses, mais quand elle ne sait pas, elle trouve l'information. Elle apporte toujours des réponses fiables, vérifiées, contrôlées, grâce aux services des administrations auxquelles on peut s'adresser, mais aussi souvent grâce aux services de notre association nationale qui dispose de conseillers financiers, de conseillers juridiques, de tout un tas de ressources pour aider les maires dans l'exercice de leurs fonctions.
Oui, justement, ça allait faire partie de ma question, oui. Donc, l'Association des maires de France, finalement, ça permet aussi d'adresser certains moyens aux maires qui en auraient besoin.
Complètement. Et alors là, on est sur une association qui a de gros moyens, c'est quelque chose d'important. Hein. Toutes les communes de France, quasiment, sont toutes adhérentes à l'AMF. Du coup, on a des cotisations par habitant, hein, en fonction de la taille de la commune, ce qui fait que l'Association des maires de France, et qui a aussi d'autres ressources, est une association
Est-ce qu'elle est subventionnée ?
Comment dire, forte. Alors, je peux pas vous dire exactement quel est le panier de ressources de la AMF nationale. Je peux vous dire qu'au niveau départemental, l'association n'est absolument pas subventionnée.
D'accord.
Nous vivons strictement avec la cotisation de nos adhérents.
Il y a quand même pas mal de communes dans le Cantal, c'est plutôt rassurant.
Il y en a 246. Nous sommes une petite association des maires, hein, à l'échelle de notre département.
Oui.
Quand je dis ça, je dis, alors, toutes les communes et toutes les communautés de communes adhèrent à notre association, mais malgré ça, nous avons une seule permanente, donc Marlène Baduel, nous avons une seule permanente, mais ça permet quand même déjà de répondre à un certain nombre de sollicitations, de faire un certain nombre de choses, oui. Absolument.
C'est l'essentiel. Il vient de se tenir le 104e congrès, qu'est-ce qu'il en est sorti ?
Alors, il en est sorti, en fait, pour parler très franchement et de manière très transparente, moi je suis revenu du congrès un tout petit peu sur ma faim, si vous voulez. J'ai pas considéré que cette année, le 104e congrès, soit marqué, comme ça arrive parfois, par des temps forts, par des annonces importantes, par la traduction d'accords qu'on attendait depuis longtemps ou de promesses venant du gouvernement. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu atone. Malgré tout, il y a eu quand même des temps forts avec l'intervention de la première ministre, hein, de Madame Borne, qui est venue parler devant les maires du camp des maires de France en clôture du congrès. On a eu aussi beaucoup d'échanges autour de la sempiternelle question des finances, parce que ça reste le nerf de la guerre et que les collectivités, vous le savez, ont affaire aujourd'hui à de multiples défis, hein, en matière d'augmentation, comme nos concitoyens d'ailleurs, hein, en matière d'augmentation du prix des énergies, en matière d'augmentation de la masse salariale, enfin, beaucoup enfin, aussi, on est impacté par l'inflation sur tous les, comme tout le monde, hein, comme vous, comme moi. Et du coup, nos ressources, elles, par contre, stagnent. Et du coup, on se retrouve à devoir réfléchir sur ensuite notre capacité à continuer malgré tout à faire fonctionner les services que nous gérons, la cantine, le centre de loisirs, le gymnase, la piscine, etc. Et en même temps, à continuer à pouvoir investir. Et pour pouvoir investir, il faut que nous ayons de l'épargne. Il faut que nous soyons, c'est comme à la maison, hein. Si on dépense tout pour le fonctionnement quotidien, eh ben, on n'a pas de quoi changer la voiture. Ben, nous, c'est pareil. Si on dépense tout pour notre fonctionnement quotidien, pour notre masse salariale, pour nos services, on se retrouve dans l'incapacité d'investir et donc dans la capacité d'améliorer notre patrimoine, d'améliorer nos équipements et d'apporter davantage de services et aussi de contribuer au fonctionnement de l'économie. Parce que on sait que les communes de France, les communautés, représentent un peu plus de 70% de la commande publique. C'est pas rien. Si du coup, demain, cette capacité à commander se rétracte trop, eh bien, c'est l'ensemble du tissu économique qui se retrouve impacté. Cette question des finances nous concerne évidemment tout le temps.
Est-ce que sur le Cantal, il y a des communes qui sont en extrême difficulté?
L'ensemble des communes de France sont très bien gérées. Je le dis d'une manière très claire, parce que la loi nous oblige à être toujours en équilibre, à la règle d'or. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, voter de budget en déficit. On a de la dette, comme tout un chacun, comme toutes les entreprises, mais cette dette, elle est obligatoirement honorée par nos recettes. On ne peut pas avoir de budget en déficit, c'est le système des sections de fonctionnement et d'investissement. La section de fonctionnement doit dégager suffisamment de recettes pour au moins rembourser le capital de la dette que nous avons. Donc, nous ne sommes pas en déficit jamais, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être en difficulté. Parce que si effectivement c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, si l'épargne, ce qui vous reste à la fin du mois ou à la fin de l'année, est tout juste suffisant pour payer vos dettes, eh ben vous avez un train de vie qui est réduit à son strict minimum, quoi. Vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vous développer. Je pense que dans le Cantal, alors je n'ai pas moi une vision très précise de la situation de chaque commune. Je pense que dans le Cantal, il y a très peu de communes qui soient dans le rouge, hein, pour parler un peu simple, mais que tout le monde comprend. Je crois qu'il y en a très peu. Je crois qu'il y en a quelques-unes et j'ai peur qu'il y en ait de plus en plus, compte tenu justement de cette augmentation des dépenses obligatoires, par rapport à, ben, par exemple, le plus criant, c'est l'augmentation des prix de l'énergie, quoi.
J'allais vous poser la question.
Pas que les communes, hein.
J'allais vous poser la question. Vous êtes maire de Marcolès, donc l'augmentation du coût de l'énergie, ça représente combien sur cette année? Vous le savez déjà? Vous avez une projection?
Je ne le sais pas de manière définitive parce que j'attendrai le compte administratif, les résultats, si vous les chiffrez, de l'exercice,
C'est bientôt
pour pouvoir le savoir de manière précise. Mais on est bientôt au bout. Hein. Oui. Moi, j'ai la chance, j'ai deux facteurs qui me protègent un petit peu. C'est que, comme Marcolès est une relativement petite commune, quoique une commune moyenne à l'échelle du Cantal, mais à l'échelle de la France, c'est une petite commune, qui a moins de 1 million d'euros de budget d'investissement et qui a moins de 10 salariés. Et ces deux critères nous permettent de bénéficier du bouclier énergétique, vous savez, comme le particulier.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que nos tarifs n'ont augmenté que de 4% en matière d'électricité cette année.
Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc pour moi, c'est pas trop mal. Mais oui. Pour d'autres qui n'ont pas cette chance, les augmentations sont beaucoup, beaucoup plus fortes. Elles peuvent aller jusqu'à 30-35%. Et si vous avez un budget, si je prends une commune moyenne, allez, je prends une commune de, j'en sais rien moi, de 1000 habitants, voilà, qui peut avoir un budget d'électricité de, je sais pas, l'an dernier, qui avait un budget d'électricité peut-être de 40 ou 50 000 euros.
Oui.
Si vous imaginez qu'on ait une augmentation de 30% ou 35%, 30% sur 50 000 euros, ça fait une augmentation de 15 000 euros.
Et l'année prochaine,
on nous promet une augmentation de 50% sur la base des tarifs de 2022. Donc, on va avoir en 2 ans, quasiment, doublé la charge d'énergie, c'est-à-dire qu'on va passer de 50 000 à 100 000 euros pour la même quantité de kilowattheure consommée, pour les mêmes services. Donc, vous imaginez que ça pèse énormément, ça.
Les communes ont des services sociaux qui aident les concitoyens. Je suppose que la part de l'énergie devient la préoccupation majeure.
Alors, c'est pour les communes, pour les concitoyens, je crois que l'augmentation des prix de l'énergie est une préoccupation majeure pour tout le monde, que ce soit une collectivité, que ce soit une entreprise, que ce soit des particuliers. Je crois qu'on a tous cette préoccupation et cette inquiétude pour l'avenir. Parce que effectivement, ça pèse, ça prend des proportions dans les budgets qui deviennent extrêmement prégnantes, quoi, et qui vont à terme poser des problèmes si on n'arrive pas à stabiliser ces augmentations. Parce qu'on peut nous dire qu'il y a des économies à faire. Oui, certes, il y a des économies à faire. Alors, vous voyez l'exemple, c'est l'extinction de l'éclairage public la nuit.
Oui, tout à fait.
Certes, mais ça, c'est, je dirais que c'est de l'ordre du symbolique.
Oui, c'est anecdotique.
C'est anecdotique. Une lampe d'éclairage public à LED aujourd'hui, ça consomme en pleine nuit parce que c'est des lampes intelligentes qui arrivent à diminuer elles-mêmes leur consommation de 50% en pleine nuit. Ça consomme en gros, moi j'ai fait le calcul pour ma commune, ça peut consommer autour de 1 centime à l'heure.
Oui, bon, autant dire que c'est ridicule.
C'est très peu dans le... Alors, ça a un impact, comment dire, assez psychologique. Mais si on arrive à avoir des ampoules à basse consommation, et c'est ça vraiment ça, par contre, il faut absolument le faire. Il faut mettre des ampoules à basse consommation.
Je crois que tout le monde est équipé.
Et si on a des ampoules à basse consommation, peut-être pas encore tout à fait. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est pas là, si vous voulez. Le vrai problème, il va être sur... la question du chauffage, par exemple.
Ah oui,
alors,
l'école.
Quand vous avez des chauffages électriques, l'école. Si vous avez des chauffages électriques, la piscine, si vous avez des chauffages électriques, mais si vous l'avez au gaz et au fioul, c'est pas mieux, hein.
Non, c'est pas mieux.
C'est pas mieux. Donc, si vous voulez, c'est là que vraiment la grosse masse de la consommation se fait, quoi. Donc, c'est vraiment un sujet d'une grosse ampleur, cette affaire-là. Mais c'est comme à la maison, hein. C'est bien le chauffage aussi qui est le plus gros consommateur et évidemment toute la partie mobilité, transport, véhicules, etc.
Radio Pays d'Aurillac.
Ok, moi, je suis incompris parce que je rentre pas dans leur case, à balles de son dans le casque, parce que je me casse dès que j'en ai l'occasion, parce que je vis pleinement, parce que je te parle vraiment, parce que la liberté et moi on est comme des aimants. Je suis incompris par leur hiérarchie, mais j'imagine déjà, j'y écrire pour élever les consciences, c'est de ça qu'il s'agit. Loin de leur format, j'ai vu trop de branches à virer. Je te parle d'échange, moi, pas de leur planche à piller. Incompris parce que mes profs captaient pas ce que le rap m'apporte. Qu'un beau jour je me suis enfui en force qu'on me claque la porte. Parce qu'à rester droit dans les virages on tapera le bord. Parce que je trouve des schémas de vie semblables dans des choses qui n'ont pas de rapport. Incompris depuis que la rue m'a fait des chants traumatiques. Que la drogue a repris son dû, la vie des potes de ma clique. Que je rentre pas dans les rangs car ça me les casse. Que ma chemise noire a vécu plus d'enterrement que de soirée classe. Incompris par l'état s'fait les zonards de teuf. Les rappeurs les cerveaux cassés par ces connards de keufs. Parce qu'on est ni trop faible ni trop fort. Parce que je reste vrai, parce que je passe mes nuits derrière un microphone. Dis-leur que je m'en tape, que j'attends pas qu'on vienne me chercher. Que si être fou c'est être moi, alors je suis fier d'être perché. Que je ferai tout pour que le savoir éduque ma connaissance. J'ai touché le fond pour trouver le sens, cet album c'est ma renaissance. Incompris car je fais du son pour apaiser ma ville. La conseillère d'orientation a bien failli baiser ma vie. Parce que je suis le seul à croire que ma passion c'est mon taf. Que les quais sont crash et qu'à faire du son tard, je déplacerai des montagnes. Ferme-la un peu, tu m'insupportes quand t'habites c'est ta lutte. En décalé mais je le vis bien d'habiter sur la lune. Incompris parce que je suis pas de ceux à qui on jette des roses. Inconnu parce que rester soi paye moins que de jouer des rôles. J'ai fait de la merde, j'ai fait des
choses bien. Je me tais quand il faut se taire. Je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre.
Moi je trouve l'inspi dans des riens qui font du tout. Bientôt 25 piges que j'analyse, que je vois des gens bien au fond du trou. Entre cœur ou trèfle, loin d'être à l'aise, y'a pas d'hasard. J'ai pas beaucoup de rêves, mais si mon son tapait, ça sera déjà ça. Je suis incompris parce que j'emmerde le système et ses modalités. Que je kiffe vandaliser parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Mon rap, une contestation à toutes ces femmes, ils oubliaient. Un cri de protestation, je représente les familles d'ouvriers. Incompris depuis la maternelle. Dans le fils, j'ai vu trop de gens prêchant, pensant que l'argent les rendrait fils de l'éternel. Moi, je suis un gosse de l'univers, du soleil et du vent. Un fils du verbe, on s'entendra pas si c'est l'oseille que tu ventes. Des lois, je m'en cogne, ta bourse est maléfique. Sais-tu ce que l'adrénaline est bonne quand tu te fais courser par les flics? J'hallucine, c'est moche, hein, on se met nous-mêmes des pénalités. La jalousie, c'est derrière son prochain pour ses qualités. Je suis incompris, mon sort, tu le captes. Qu'on soit écrit, je m'en tape. J'écris pour les esprits qui sortent du cadre. Pour ceux en marche, quand on marre d'en partir bêtement. Pour ceux qui aiment la vie, qui se mettent en marche avant de partir vraiment.
J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre.
Je prends la plume quand il faut se plaindre.
Ok, incompris, Aslan P, Mélan, ok. Mère ta musique.
Ce 104e congrès, il a été aussi évoqué les problèmes de l'école dans les communes.
Oui, oui. Et c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans le Cantal, effectivement. J'ai eu la chance de participer, d'assister à une table ronde en présence du ministre. Mm-hmm. J'ai eu aussi, pendant ce congrès, l'opportunité de rencontrer les responsables nationaux de la commission éducation de l'AMF, la maire de Périgueux et le maire d'Arras, qui sont des gens très, très investis sur ces sujets-là, et avec qui nous échangeons depuis longtemps sur les questions de l'école rurale, de la défense de l'école rurale, des moyens alloués et à conserver pour garder une école vivante, selon le slogan que nous avons adopté dans le Cantal, une école de qualité accessible à tous, c'est-à-dire à la fois une école qui soit dynamique, vivante et proche du lieu d'habitation. Et ce n'est pas toujours simple de conjuguer ces deux critères. Et effectivement, la question de l'école a été évoquée pendant cette table ronde. Et nous avons la perspective, dès la semaine prochaine, de réunir sur les trois arrondissements, sur Saint-Flour d'abord, puis Aurillac, puis Mauriac. Alors ça se passera le lundi 5 puis à Saint-Flour, le lundi 12 à Aurillac et le lundi 17 à Mauriac, à 18h chaque fois. Nous avons invité nos collègues à venir participer à des rencontres autour justement de comment nous, les maires, comment on peut contribuer à réfléchir ensemble à une organisation d'école qui fasse que demain, on puisse avoir la meilleure école possible, au plus près possible des lieux de résidence des élèves cantaliens. Et on s'aperçoit que c'est un vrai défi.
Et est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion ?
Il y a déjà des pistes de réflexion, il y a des gens qui ont fait déjà des choses. Hein. On a des exemples d'écoles, de communes qui se sont regroupées, qui ont imaginé dans la proximité de pouvoir se doter d'écoles avec des effectifs suffisamment importants pour pouvoir résister à l'érosion démographique, parce que vous savez, et tout le monde sait, qu'un des fléaux de ce département, c'est une démographie qui recule année après année. Hein.
Et un vieillissement de la population.
Et un vieillissement de la population. Et malheureusement, vous savez bien que ce n'est pas les gens du troisième âge qui remplissent nos écoles publiques. Et là, si vous voulez, actuellement, nous, on constate sur ces 6-10 dernières années, on constate une érosion d'à peu près 150 élèves de moins par an dans l'enseignement primaire public. C'est pas rien, 150 élèves, si vous ramenez ça à un nombre de classes, ça pourrait vous faire perdre énormément de moyens d'enseignement.
6 classes à peu près, non ?
Même 8, quoi, hein, 8, avec ouais, les taux d'encadrement qu'on a dans le Cantal.
D'accord.
Et nous, si on arrivait à ce rythme de fermeture, on constaterait que des secteurs entiers de ce département se videraient de leurs écoles. Mmh. Et que demain, alors on parle beaucoup de déserts médicaux, mais demain, on parlerait, d'ailleurs on peut déjà parler pour certains endroits, de déserts scolaires, ouais. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous nous mobilisons. Nous avons signé en 2014 une convention d'aménagement du territoire scolaire cantalien pour justement s'engager à faire évoluer ce tissu scolaire et engager le gouvernement à maintenir un maximum de moyens pour l'école cantalienne. Jusqu'à aujourd'hui, nous, depuis 2014, je considère que nous y sommes relativement bien parvenus, mais aujourd'hui et demain, le challenge est toujours devant nous et nous devons nous mobiliser pour essayer de faire en sorte qu'on ne revienne pas sur des simples calculs de ratios arithmétiques qui feraient en sorte que des pans entiers du département verraient partir les classes, puis ensuite les écoles, et se retrouveraient effectivement en situation de désert scolaire. Quoi.
Oui, oui. Et à Marcolès, alors, beaucoup de naissances ou pas?
Ah ben écoutez, je crois que parce qu'on en est là aussi, effectivement, à se dire, tiens, ben c'est sympa, il y a une naissance qui est annoncée, ou deux, ou trois, ou cinq, ou six, et je crois qu'on doit en être à six ou sept pour l'année prochaine, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas tous les ans comme ça. Hein.
Ouais. Mais c'est peut-être pas assez.
Et c'est peut-être pas, mais de toute façon, c'est pas assez. C'est jamais assez. Oui. Bon, nous, on a un RPI à trois classes avec nos collègues de Saint-Antoine et de Vitrac, mm-hmm. une petite école qui marche bien, qui va bien, mais avec des effectifs voilà, qui sont assez stables. Mais on voudrait évidemment avoir plus de jeunes enfants, oui. plus de jeunesse dans nos campagnes, c'est une évidence. Et encore,
c'est une nécessité.
Pense que le territoire, oui, c'est une nécessité, c'est l'avenir. C'est construire l'avenir de nos communes et de nos territoires.
La reprise des exploitations agricoles également en font partie, c'est-à-dire que sans jeunesse...
C'est évident. Voilà. Aujourd'hui, ben oui, mais bien sûr, mais c'est bien aussi, le Cantal par nature est un département agricole. C'est bien le recul de la démographie agricole que nous avons constaté ces 20, 30, je ne sais plus combien d'années, qui fait que ben aujourd'hui, la démographie cantalienne est en berne d'une certaine manière, parce que le recul de la démographie agricole n'a pas été compensé par une augmentation ou une explosion d'autres secteurs d'activité.
Un autre volet, répondre à la diversité des besoins de logement. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, alors répondre à la diversité des besoins de logement, ça veut dire tout simplement que si on veut accueillir des nouveaux habitants dans le Cantal, parce qu'aujourd'hui, la lutte contre la déprise démographique, ça passe forcément par l'arrivée de nouveaux habitants, des gens qui viennent de l'extérieur. Les populations autochtones cantaliennes, si je peux parler comme ça, ne sont plus en capacité aujourd'hui de renouveler les générations. Il faut qu'on ait absolument des gens qui viennent de l'extérieur. Et pour ça, ben, il faut leur offrir du travail, certes, mais il faut aussi leur offrir des conditions de logement intéressantes.
D'autant que le travail...
Abordable.
Bien sûr,
mais vous avez raison.
Puisque j'étais avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie qui me signifiait que Cantal est en situation de plein emploi. Le Cantal...
Complètement.
Et il y a de la recherche. Les mots du président étaient « Il n'y a pas une entreprise du Cantal qui ne cherche pas à recruter. »
Absolument. C'est aussi le constat que nous faisons sur les communes avec toutes nos entreprises artisanales ou de plus petites ou de plus grande importance recherchent des collaborateurs partout. Et pour ça, il faut du logement. Et je vais vous donner un exemple assez parlant. Moi, sur ma commune, j'ai une entreprise de menuiserie charpente, bien connue dans le département, hein, qui est l'entreprise Marcena, pour ne pas la citer, qui a une petite vingtaine de salariés et de collaborateurs. Et l'autre jour, en discutant, le chef d'entreprise me disait, vous avez, à la mairie, vous avez rénové un immeuble dans le centre-bourg. Est-ce que tu pourrais me garder ou me mettre sous le coude un de ces appartements parce que je vais faire venir, j'espère pouvoir faire venir un jeune, je crois que c'était du département du Lot, mais il cherchait aussi dans des périmètres beaucoup plus importants, et il dit, il faut que j'ai la possibilité de le loger si je veux pouvoir l'embaucher. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, il m'a dit, voilà, ben, écoute, le jeune, il vient, on va lui faire visiter l'appartement, etc. Et le jeune, il est installé aujourd'hui à Marcolès, il est très heureux, nous aussi, et l'entreprise aussi.
C'est une bonne
nouvelle.
Mais bien sûr, c'est une très bonne chose. Et nous, on a une... C'est pour répondre à votre question de diversification de l'offre de logement. Si vous voulez, nous, une de nos grandes, engagements, c'est la rénovation du bâti existant. On a un centre-bourg que vous connaissez peut-être, Marc-Omès.
Oui, tout à fait.
Qui a quand même un cachet et un cadre de vie sympathique. On essaie de racheter, de rénover et de louer ensuite, de mettre à disposition pour du logement ou pour de l'activité, ce bâti existant. Donc ça, c'est une offre. Mais ça ne peut pas être là. Aujourd'hui, si vous voulez, on a aussi une grande demande de nous de petites maisons avec terrain. Vous voyez le pavillon, l'exemple, cette espèce de recherche permanente. Les Français aiment beaucoup ça, la petite maison, le pavillon avec terrain. Eh bien, nous, on a quelques terrains disponibles. Et l'autre jour, j'étais avec une société HLM pour travailler sur la possibilité de construire des pavillons en location, accession à la propriété. Voilà un deuxième dispositif. Il faut aussi, je pense, avoir des terrains disponibles pour que celui qui veut acheter, construire sa maison, puisse le faire. Et là, on se heurte à un petit souci aujourd'hui dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la question de la zéro artificialisation nette, qui veut que qu'on artificialise de moins en moins d'espaces naturels ou agricoles. Attendez, on n'en est pas à interdire toute artificialisation. N'empêche qu'il faut qu'on construise, qu'on utilise de moins en moins de terrain. L'objectif, c'est de diminuer par deux la consommation en 2030. Oui, bien sûr, c'est un objectif dont on comprend le sens, mais attention, il ne faut pas non plus que ça vienne en pénalisation de nos capacités de développement et d'accueil de nouvelles populations et de nouveaux habitants, parce que c'est aussi quelque chose que les gens recherchent. Oui, le Cantal n'est pas le département qui, par le passé, a consommé le plus d'espace. On n'a pas construit d'aéroport, ni de très grandes zones.
Ni de grands centres commerciaux non plus. Voilà.
Non plus, ni d'autoroutes, etc.
Oui. L'autre défi, c'est aussi quand même un nouveau type de logement, moins gourmand, moins énergivore.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi que je pense que quand on fait de la rénovation, quand je parlais de faire de la rénovation de bâtis existants, on a un regard particulièrement pointu sur les économies d'énergie. Vous savez, une bâtisse dans un centre-bourg ancien, qui est mitoyenne de tous les côtés, c'est pas forcément un bâtiment beaucoup plus énergivore que d'autres situations géographiques. Et si évidemment on fait tous les efforts en termes d'isolation, on arrive à avoir des bâtiments qui sont très performants, d'autant qu'on est après aussi dans des systèmes souvent de logement de chauffage collectif. Nous, ici, par exemple, on a, et c'est quelque chose qui se développe beaucoup, nous, on a depuis 2007 un réseau de chaleur bois énergie.
Oui.
C'est-à-dire que, comme sur Aurillac, mais on avait un peu d'avance.
Oui.
Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux d'avoir ce réseau parce que on consomme une énergie locale, on a un bilan carbone qui est à l'équilibre et en même temps, on a une énergie qui est extrêmement peu chère par rapport aux énergies fossiles. Et voilà le genre. On a plusieurs appartements, nous, dans le centre-bourg, qui sont chauffés grâce à ce réseau de chaleur. Et donc, on a un budget chauffage qui est bien inférieur à ce qui peut se pratiquer ailleurs. Et en même temps, avec un bilan carbone à l'équilibre. Donc, vous voyez, il y a des choses à faire. Et je sais que de plus en plus de communes se tournent vers ce mode de chauffage aussi collectif.
Monsieur le maire, avez-vous quelque chose à rajouter? Et à la fois, monsieur le président de l'Association des maires du Cantal, avez-vous quelque chose à rajouter?
Écoutez, on a dit beaucoup de choses et je vous remercie de ce temps que vous consacrez à l'intérêt que vous portez à la vie des communes cantaliennes et des maires.
De plus en plus dans notre émission, puisque ça va être diffusé dans l'émission Chronique Terrienne, de plus en plus, on essaye d'aller jusqu'au fond des choses et de prendre le temps de discuter.
C'est très bien. C'est très très bien et je pense que beaucoup de médias devraient s'inspirer de cette démarche parce que on est bien trop dans une situation où on survole les choses, où
on ne peut rien dire en 30 secondes.
En permanence. Absolument, c'est sûr. Non, moi ce que je dirais, c'est que en conclusion un petit peu, si vous voulez, de cet entretien, je dirais que gérer une commune aujourd'hui, c'est quand même un exercice qui est difficile parce que comme on le disait au début, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de fonctions différentes, il y a énormément de choses à gérer et à savoir et à maîtriser. Mais je continue à dire, malgré tout ce qu'on peut entendre, que cette fonction de maire est une fonction absolument passionnante et que c'est pas pour rien si le maire reste l'élu préféré des Français, quoi.
C'est le plus proche des Français.
C'est le plus proche. Le maire, on peut toujours le rencontrer, on peut toujours lui dire quand on n'est pas content, on pourrait lui dire aussi de temps en temps quand on est content, ça serait pas mal, mais bon, vous savez bien comment ça marche,
oui.
On s'intéresse toujours aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Moi j'ai l'habitude de dire que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse.
On est bien d'accord.
Et c'est bien dommage, mais bon. Non, ça reste une fonction extrêmement passionnante et intéressante, et on a encore, malgré des difficultés, beaucoup de levier d'action, beaucoup de choses à faire pour améliorer la vie de nos concitoyens, pour préparer l'avenir de ce département qui reste un département extrêmement attachant avec, bon, on connaît tous plein de gens qui découvrent le Cantal et qui sont ravis de nos paysages, de nos conditions de vie, mais aussi de tout ce qui se passe au niveau associatif, au niveau culturel, au niveau sportif. On n'est pas du tout un département ni arriéré, ni sinistré. On est juste un département où il y a beaucoup de choses à faire, mais qui a beaucoup d'atouts et où je crois l'avenir peut-être plus radieux que ce qu'on pourrait le penser a priori.
Chacun peut y trouver sa place.
Sans doute.
Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission et j'espère vous retrouver prochainement pour de bonnes nouvelles sur les ondes de Radio Pays d'Aurillac.
Ça sera avec plaisir. Merci à vous, bonne soirée.
À vous aussi, au revoir.
Radio Pays d'Aurillac.
Pour conclure cette émission, dans le cadre de notre rubrique Aurillac la nuit, je vous propose l'interview d'Anthony, gérant du Gotham. Le mauvais génie des reportages a fait que nous nous sommes retrouvés dans une salle avec un écho particulier. Tendez l'oreille. Les chroniques terriennes, c'est aussi ça, des prises de son sur le vif.
Eh bien, salut, moi c'est Anto, du Gotham, pour ceux qui me connaissent. Sinon, je m'appelle Anthony, je viens le bar, donc le Gotham, rue du Buis.
C'est un bar de nuit, ouvert de 17h à aux heures autorisées.
Alors, c'est pas un bar de nuit proprement dit, et ce qui peut être pensé, parce qu'un bar de nuit, ça sous-entendrait que je puisse ouvrir toute la nuit, ce qui n'est pas le cas, puisque je dois respecter les horaires de bar, donc fermé en semaine à 1h du matin, et le week-end, donc vendredi et samedi, à 2h.
Comment décrirais-tu ta clientèle ?
En fait, nous, on a démarré avec... des amis à moi, déjà pour commencer, ce qui est déjà bien, qui ont été présents dès les débuts, qui ont plutôt mon âge, c'est-à-dire entre 30 et 40. Et après, le Covid y a été pour beaucoup. On a quand même eu du changement, on a remarqué qu'il y avait des personnes au-dessus de 40 qui venaient beaucoup moins. Je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas la réponse à ça. En revanche, elle a été remplacée par une excellente clientèle de jeunes, pas forcément très jeunes, mais quand même 20-25 pour la plupart, qui font notre bonheur et qui sont excellents et qui se tiennent très très bien, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, qui sont en total accord avec notre établissement, les soirées techno, et qui sont aussi en accord avec ceux qui veulent bien le prendre, des quarantenaires ou des cinquantenaires, même des septuagénaires, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'il y ait une bonne ambiance et qu'il y ait de l'entente. Il n'y a aucune raison pour que les anciens et les nouvelles générations ne s'entendent pas. Voilà, la nuit aurillacoise, moi, je la connais depuis que j'ai 18 ans. Donc, c'est un tas de choses. La nuit aurillacoise, c'est... moi, quand j'étais jeune, c'était quand même... Le cœur de la fête, c'était le bateau lavoir.
Pour toi, le bar, c'est ton travail principal ou tu fais autre chose dans ta vie ?
J'ai eu fait autre chose, mais là, comme il y a beaucoup d'engouement, et, suite au Covid, évidemment qu'il y a eu des grosses sorties de masse de population qui sont venues nous voir. Et donc, oui, j'ai eu travaillé au ciné Cristal et d'autres petits extras, des choses comme ça, mais là, j'ai plus le temps parce que...
C'est plutôt une bonne nouvelle en soi. En fait, tu consacres tout ton temps à ton bar.
Absolument, absolument. En fait, c'est pas parce qu'on est ouvert que du mercredi au dimanche que... mercredi au samedi, pardon, que ça fait pas du boulot pour tout le reste des jours parce que on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à gérer comme les commandes, les réceptions, la compta, etc., etc. Et effectivement, quand plus on a de monde, plus ça fait du boulot derrière. Et maintenant, il y a eu l'arrivée de mon serveur Étienne. Donc, on a ouvert un jour de plus, le mercredi, qu'on n'avait pas avant. Et il n'y a plus trop de place pour des extras, quoi.
Plutôt très bien, en fait.
C'est très bien.
Ton bar, c'est plus whisky, c'est plus rhum, c'est plus bière. Tu te décris comment par rapport au choix de boissons que tu as fait? Ou ouais. Cocktail même peut-être.
En fait, voilà, voilà, c'est ça que... On est avant tout un bar à cocktail. Donc, dans l'idée, c'est proposer aux gens une carte qu'ils ne connaissent pas. Parce que l'Aurillacois n'est pas forcément voyageur. Nous, notre but, c'est d'essayer d'amener de ce qui se passe ailleurs, ici. Donc, on va avoir, nous, par exemple, le mojito, c'est idiot mais, pour certains, mais on le fait pas. On le fait pas parce que c'est tellement démocratisé, c'est tellement gnangnan, que y en a partout, il y en a dans tous les bars. Et on a tellement autre chose à faire découvrir que ça, on l'a carrément rayé de la carte pour justement proposer autre chose. Pour ceux qui aiment le mojito, on va proposer par exemple un daiquiri qui se base avec les mêmes ingrédients, mais qui est complètement travaillé différemment, etc. etc. On a des cocktails à base de tout, et on a aussi des spiritueux qui vont de la gamme standard, donc pour mélanger avec des softs, comme par exemple le Whisky Coca classique, qui est dans le même prix que les autres établissements. Mais après, on a aussi des spiritueux beaucoup plus haut de gamme à faire découvrir à ceux qui aiment, qu'on renouvelle, qu'on ne cesse de renouveler tout le temps pour ne pas s'endormir sur nos lauriers, comme on dit.
Ma dernière question, une expérience pour le reste de ta vie ou ben, tu pourras évoluer sur autre chose dans l'avenir?
Ben, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite, hein, donc tout va très vite. Moi, j'espère rester là encore un petit peu. Je suis comme la gamme de produits que je propose, j'aime le changement. Donc oui, un jour, évidemment que ça sera en vente. Je resterai dans ce milieu parce que c'est quelque chose qui me correspond. Et pourquoi pas investir dans quelque chose de peut-être plus grand ou garder celui-là et avoir autre chose à côté. Je sais pas encore.
En tout cas, peut-être un jour faire quelque chose de différent.
Différent ? Peut-être pas, parce que je trouve qu'on a quand même trouvé la recette de qu'est-ce qui correspond à l'image qu'on voulait dégager depuis le début. Preuve en est, c'est que voilà, cette année, on a eu énormément de clientèle nouvelle qui s'est plu et qui reviennent. Et du coup, ben, moi, j'ai pas trop envie de changer de concept étant donné que je trouve que c'est quelque chose qui me correspond. Mais pourquoi pas essayer de voir un peu plus grand. Voilà, on verra.
Je te remercie beaucoup et puis je te souhaite tout le succès possible dans ton aventure.
Merci beaucoup, Eric.
Ont participé à cette émission Anthony Dugotam, Christian Montin, président de l'Association des maires de France et maire de Marcolès. Je le remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Mélane, rappeur toulousain, qui se produira le 10 décembre sur la scène du Sismographe à 20h. Je tiens tout particulièrement à le remercier pour sa patience, les conditions techniques n'étaient vraiment pas en notre faveur. Je vous rappelle que vos chroniques terriennes sont diffusées le lundi de 21h à 22h, le samedi en rediffusion de 20h à 21h. Vous pouvez également les retrouver sur le site Radio Pays d'Aurillac en replay. N'oubliez pas, les chroniques terriennes, c'est aussi la chaîne YouTube Chroniques terriennes. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté ces chroniques terriennes. À très bientôt.